Avenant numéro 1, monsieur Darbois.
À moi, oui. Monsieur le maire, chers collègues, donc il s'agit de Madine et une convention qui porte sur l'utilisation des digues des chevaliers de Marmont. Alors, nous avions une convention qui avait été signée en 2006. Cette convention prévoyait que nous prenions en compte pour partie le faucardage, puisque nous avons des problèmes d'algues dans Madine. Ce faucardage coûte relativement cher. Donc, nous avons convenu avec le syndicat mixte de Madine de limiter la dépense de la ville de Metz, notamment à 15 000 euros par an, à condition que ça ne dépasse pas, que l'ensemble des travaux, de ces travaux-là, que ça ne représente pas plus de 50% de l'ensemble des travaux. Donc c'est cet avenant qui vous est proposé, mais pas sans préciser, parce que c'est relativement important, c'est un point qui me semble important, et ça répondra peut-être déjà à vos questions, vous dire qu'aujourd'hui, nous avons la certitude de la provenance de cette pollution, qui dans le cas de Madine, ne doit surtout pas être, puisque c'est une ressource, ne doit pas être traité chimiquement. D'où la solution de... D'où la solution de faucardage. Alors, vous dire qu'évidemment, nous tentons depuis près de 10 ans, nous tentons de trouver des solutions d'élimination de ces algues, mais à la source. D'autres sites sont d'ailleurs touchés. Je peux continuer ou... je suis drôle. Dites-moi. Ah bon. Mais j'aime bien être drôle, pourquoi pas. Mais vous dire surtout qu'après quelques échanges avec le président et le nouveau directeur du site de Madine, nous avons aujourd'hui de sérieux espoirs de solutions pour transformer ces algues et peut-être en ressources. Mais c'est vraiment... Dans le même temps, je ne désespère pas de trouver des solutions avec l'aide de l'agence de l'eau Rhin-Meuse pour diminuer la charge de nitrate dans le lac de Madine et sur le bassin versant de Rhumat, puisque tout ça est lié. Vous aurez compris que c'est bien sûr un travail qui me passionne en tous les cas, qu'il est de longue haleine, il entre complètement dans le champ de l'écologie et que cela mérite d'être partagé avec l'ensemble du conseil municipal. C'est pour ça que je vous en parle. Voilà, vous remercie.
Merci, monsieur Darbois. Monsieur Gourlot, pour 2 minutes.
Merci, monsieur le maire. En la matière des digues et des algues, je partage l'opinion de M. Darbois, donc on votera pour. Mais je profite de cette chaste histoire d'eau pour évoquer le contrat d'affermage avec la société Veolia Mosellane des Eaux pour la production et distribution d'eau potable à Metz et environ, qui prendra fin le 1er juillet 2018. Tous les élus ici présents ont reçu une lettre de l'association Basta, et une fois n'est pas coutume, nous partageons les interrogations et les points évoqués par celle-ci dans son courrier.
Ça m'étonne pas.
Ainsi, il est rappelé que fin 2016, 6 communes de Metz Métropole et pas des moindres, Montigny-les-Metz, Marly, Moulins-les-Metz, Ogny, Châtil-Saint-Germain et Seychassel ont décidé de tourner la page de la privatisation et de confier la gestion de l'eau potable à une régie de la communauté urbaine. Pour notre part, le principe de subsidiarité et de proximité doit prévaloir et il nous apparaît évident et plus sain que cela soit notre collectivité qui gère la gestion de son eau potable. La question que je pose au maire, à l'ingénieur, aux spécialistes de l'eau, aux chantres de la communauté urbaine, c'est à l'avenir, prolongation avec Veolia ou retour à une gestion publique. Je vous remercie.
Merci, Madame Zimmermann.
Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Très rapidement, le lac de la Madine, initialement, avait été créé par la ville de Metz pour son approvisionnement en eau. Oui. Voilà. Il a été ensuite agrandi pour des buts d'aménagement touristique. À la base, la base de loisirs, en fait, n'a plus rien à voir avec la ville de Metz. Alors, OK, vous avez une convention, mais pourquoi c'est toujours la ville de Metz qui paye? Ça, c'est la première question. Deuxième question, je voudrais également rappeler que l'utilisation du lac de la Madine, c'est également pour l'adduction d'eau à Metz, résulte en fait de la pollution de la Moselle par les chlorures des soudières.
Oui.
Excusez-moi. Alors, bien entendu, on a perdu le procès, mais je pense que c'était dû essentiellement à un manque de combativité de l'ancienne municipalité. Et je souhaiterais savoir, monsieur le maire, si vous avez l'intention de reprendre ce dossier qui me paraît quand même extrêmement important, parce que je crois vraiment que on pourrait, si on était vraiment combatif, gagner. Parce que, bon, pour moi, la devise a toujours été le payeur doit être le pollueur doit être le payeur. Voilà.
Merci, madame.
Ouh, c'était lourd, ça.
Eh bien, écoutez, je vais essayer d'être très bref, mais vous posez une question importante. D'abord, sur le lac de Madine. Nous n'avons plus aucune responsabilité sur la gestion du lac. Nous avons uniquement des responsabilités sur la digue. Et nous avons rompu avec tout ce qui était notre participation globale au syndicat qui s'occupait de ça. Ça, c'est une sortie qui a été décidée par mon prédécesseur, mais il y a eu des moments où je me suis occupé de ça sous son autorité, puisque j'étais son adjoint. Et il me demandait à l'époque largement conseil. Donc, les choses sont bien séparées. La motion qui vous est présentée par René Darbois consiste simplement à participer à la gestion du plan d'eau, dans la mesure où on veut interdire absolument même l'usage d'un peu de cuivre, de tout ce qu'on peut trouver ailleurs, de façon à ce qu'il n'y ait pas de risque de pollution d'une eau potable qui est indispensable pour nous. Maintenant, s'agissant de la raison, vous avez raison, il y a deux grandes ressources en eau dans la région. C'est un, c'est le plateau Lorrain avec les eaux qui partent dans les mines les anciennes mines de fer qui sont sulfatées, et les eaux qui arrivent par la Moselle qui sont chlorurées. C'est-à-dire qu'on est pris entre deux sortes de pollution et nous n'avons pas eu d'autre choix pour compléter notre approvisionnement que d'aller chercher de l'eau dans la Madine et après ça dans le Rudemas et au barrage d'Arnaville. Cette chaîne-là est anormale puisque nos deux ressources naturelles sont quelque part limitées à cause de la présence de ces sels. Et ce que vous dites de mon prédécesseur, c'était une erreur juridique, si vous voulez. On a attaqué pour essayer de récupérer une partie de l'investissement qu'on avait dû faire. Et c'était une erreur parce que les affaires étaient fort closes, si vous voulez. C'est-à-dire que les soudières ont dit, bah, écoutez, ils nous attaquent pour compenser d'un investissement et c'est fort clos, c'était des affaires juridiques. Vous savez, c'est l'âge du capitaine, le quorum, tous les trucs qui font que, voilà, il y a prescription, c'est fini. Et donc, on a perdu, effectivement. J'étais pas depuis longtemps aux affaires, ça m'a pas plu du tout. Et la vérité, c'est que la perte pour nous, elle est permanente, puisqu'il y a à peu près 30 centimes d'euros par mètre cube. Imaginez que ça représente 90 000 mètres cubes jour. Hein, alors, pas tout, il y en a 60 000 qui viennent de Madine. 30 centimes, voyez un peu le travail, hein, à longueur d'année. Alors, c'est une question compliquée. Moi, je trouve que l'affaire, la première, a coûté très cher à la ville, et ce n'est pas tout à fait soldé, parce qu'on est en train de se retourner vers les avocats pour leur demander... Bref, on se pose des questions. Mais ça a été une sale affaire, vous savez. Vous êtes dans des affaires judiciaires, vous avez le bon droit pour vous, ça je connais bien, hein, et vous perdez parce qu'il y a des juristes qui vous expliquent que forclos, machin truc, etc. C'est un métier que je ne connais pas, et moi, je fais confiance aux juristes, et on a été... accompagné par Maître Huglot, on ne pouvait pas trouver mieux, hein, c'était le summum du summum, c'était très très cher à la minute, hein. Et puis à la fin, voilà le résultat. Donc, je suis perplexe, mais le fond de l'affaire reste pendant, puisqu'on a toujours les chlorures dans la Moselle, on ne peut pas installer d'entreprise utilisant de l'eau en aval du confluent de la Meurthe jusqu'au Rhin. Hein. Et voilà, alors donc on en est là. La question de Monsieur Gourlot, qui était une question de faut-il sous-traiter ou pas quelques services que ce soit quand on est dans une collectivité. Monsieur Gourlot, je vais vous répondre. C'est la langue d'Ésope, c'est la meilleure et la pire des choses. Si vous avez un bon rapport de force avec un prestataire qui travaille pour vous, moi par exemple j'ai un bon rapport de force avec mon boulanger, quand je trouve que le pain n'est pas bon, je vais chez un autre. Vous voyez, je suis direct, intraitable. Hein, et puis si je trouve qu'il est trop cher, je vais en chercher chez un autre. Eh bien, un fournisseur, on a plein de fournisseurs de toute nature. Et cette fourniture-là, pour l'électricité, par exemple, je ne la fais pas moi-même, etc. J'ai des tas de situations dans lesquelles je m'adresse à des fournisseurs. Et en ce qui concerne l'eau, c'est un sujet qu'effectivement je connais bien. Il y a des endroits où il y a des régies directes qui sont des véritables gaspillages, gâchis, avec de la famille qui a embauché des... Et tout près d'ici, hein, j'ai dans la tête plein de noms et plein d'histoires savoureuses sur la fameuse gestion en direct. La gestion en direct, ça peut être aussi la gestion entre copains. Il y a tout un tas de problèmes. Et puis la gestion sous-traitée, on peut trouver des histoires, et Dieu sait si j'en connais, sur la Générale et la Lyonnaise, parce que je les fréquente depuis très longtemps. avec des tas d'histoires, d'élus locaux, etc. Et on trouve même, et ça existe dans des grandes villes pas loin d'ici, des endroits où c'est soi-disant, ou même à Paris, où c'est soi-disant géré en direct, mais en réalité, il y a un tout petit système géré en direct, puis après ça, tous les sous-traitants, eh bien, c'est les mêmes. Hein, et hop, on repasse pour les boues, pour les filtres, pour les aérateurs, etc. Et donc, ce discours que j'ai lu comme vous, qui est un discours de nature complètement idéologique, par rapport au fait qu'il y a une solution qui est bien, une solution qui n'est pas bien, c'est un discours qui est complètement simplificateur. Et ce n'est pas le discours qui me convient. Je dois constater ici que la société qui a géré par affermage, c'est-à-dire pas directement les investissements, c'est nous qui les faisons, je rappelle. C'est nous qui les décidons. Et on a des décisions en ce moment à prendre, notamment sur le primaire du fil qui est installé à Moulins. Je dois reconnaître que la situation ici est bonne, au sens qu'on a de l'eau de qualité, elle est bien gérée, il y a une transparence, on est acteur de l'affaire et singulièrement René Darbois qui suit les affaires de près et depuis longtemps, qui siège à l'agence de l'eau aussi bien au comité de bassin qu'au conseil d'administration. On gère ça et on fournit de l'eau à une vingtaine de communes, 20-25, et beaucoup de communes encore en secours, et tout le monde prend l'eau qui est produite là. Donc, moi, j'écarte rien. Mais c'est une compétence qui va passer à l'agglo. Hein. Et effectivement, à Montigny, ils étaient très mécontents. Parce que c'était la SOR, il y a eu une affaire assez scandaleuse qui a été dénoncée. Il y a eu 9 millions de francs qui ont été donnés juste avant le début de l'application de la loi Sapin à la ville de Montigny du temps de M. Dorflinger. Je connais tout par cœur. Et donc. Et Patrick Thiel était conseiller municipal de l'époque. Et ça fait une crise politique. Donc, si vous voulez, ne faisons pas noir et blanc. Ce que je souhaite, par contre, c'est qu'on s'oriente vers une CEMOP. Qu'est-ce que c'est qu'une CEMOP? C'est une société de gestion où les collectivités sont dans le conseil d'administration, même s'il y a une gestion qui est assuré par des professionnels, parce que nous avons ici, nous, la chance d'avoir des techniciens de très haut niveau qui sont capables d'assurer ce rapport de force, indispensable sur le plan technique, avec nos partenaires, et donc de déjouer les tentations éventuelles qui pourraient exister, d'abuser de la faiblesse de tel ou tel élu qui ne comprendrait pas ce qui lui arrive et qui se laisserait faire, en quelque sorte. Ça peut arriver aussi. Hein. Et donc, c'est ce que nous avons, par exemple, au TAM, où... C'est la collectivité qui est autour de la table, même si on a un opérateur qui s'appelle Keolis, dont c'est le métier, parce que c'est un métier de gérer, ce type d'activité. Donc, voilà où on en est. On est en ce moment en train de réfléchir à, pour des raisons d'investissement à prolonger d'un ou deux ans, on va voir le contrat tel qu'il est. C'est l'aglo qui décidera, mais on fera ça en totale transparence. Il n'y a pas de solution parfaite et idéal, et je ne veux surtout pas me laisser enfermer dans une idéologie de type Front National Basta, puisque c'est ça que j'ai compris comme une alliance des extrêmes, qui voudrait dire qu'il n'y a absolument aucune possibilité de travailler avec un opérateur qui ne soit pas un opérateur fonctionnant avec des salariés des collectivités locales. Voilà quel est mon état d'esprit par rapport à ce problème-là, et sincèrement, je peux vous dire que ça ne sert à rien de s'arc-bouter sur des idéologies par rapport à des problèmes pareils. Il faut être très pragmatique, regarder les choses comme elles sont, regarder combien ça coûte, la qualité des services. Je termine sur un point. Ici, nous avons un réseau qui a un extrêmement bon rendement. Nous avons un réseau qui est surveillé. Et savez-vous, Monsieur Lebeau, savez-vous, Monsieur Gourlot, qu'il y a 1500 lettres qui partent par an ici, à Metz, 1500 lettres qui passent par an et qui préviennent les gens quand il y a des consommations anormales. Parce qu'il y a un téléphone sur chaque compteur. Il y a un téléphone sur chaque compteur qui transmet, téléphone qui appartient d'ailleurs au service de la ville, les compteurs, tout ça appartient à la ville, qui transmet les informations et on envoie des lettres en disant « Attention, vous avez une consommation anormale ?» Alors quelquefois la réponse est « Qu'est-ce que ça peut vous faire ? J'ai acheté une piscine. » Ça se comprend, mais quelquefois c'est « Il y avait une fuite dans le jardin, je ne le savais pas. » Et vous êtes prévenu. Et ça a été inventé ici par Veolia, excusez-moi de le dire, c'est comme ça. Et en fait, on se balade en France pour expliquer comment ça marche ici, et les gens viennent nous voir. Donc, je voudrais simplement dire que c'est pas parce que, en plus de ça, il y a ici, à Metz, Hein, la tête de pont, il y a 250 personnes qui travaillent pour Veolia à Metz parce que la Vence est divisée en quatre carrés, en quatre parties, et un des sièges de ces quatre parties, il est ici à Metz parce que ici on a un bon. Donc attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si je peux me permettre. Voilà, pour avoir répondu à vos questions, je mets aux voix. Qu'est-ce qui est d'accord avec. Qu'est-ce qui est contre cet avenant ?
Très léger.
Très léger.
Mais on a le droit, c'est nos droits, nos chiens. Bon, je disais simplement qu'il n'y a pas d'alliance des extrêmes en la matière, monsieur le maire, surtout pour, surtout pour un modéré comme moi. Non, mais dans la lettre de Basta, il était dit qu'un débat public doit avoir lieu rapidement. Ben, je suis d'accord avec le débat public. Débat public que vous avez commencé à faire ce soir, et je vous en remercie. Moi, je n'ai pas non plus de philosophie ni de religion sur le sujet. Si vous arrivez à me convaincre avec vos arguments, je serais heureux d'être convaincu. Voilà. Donc, il n'y a rien du tout d'extrémiste, d'idéologique et je ne sais quoi d'autre. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. On vote pour ce dossier.
J'ai cru qu'il y avait un acte Front National Basta, mais c'est tout bon. Alors, avenant numéro 1, qu'est-ce qui est contre ? Qu'est-ce qui s'abstient ? Il n'y en a pas. Je vous remercie.